ski alpin. On en parle dans tous nos journaux des sports. Il est 9h10 à Paris. Merci d'écouter RFI. L'info continue. Très bonne journée.
D'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue. Bon début de week-end à ceux qui m'écoutent en direct. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à ce qui définit une bonne estime de soi avec le livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux. Si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre, dès maintenant. À travers le nouveau chapitre que je vais vous faire découvrir, on aborde le sujet de l'acceptation de soi, de ses défauts, ses lacunes, mais aussi ses forces. Parce que l'estime de soi passe par notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. Et qu'il n'y a pas meilleur moyen de changer positivement que d'accepter ce que l'on est déjà. Mais l'auteur l'explique mieux que moi, alors on se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 7, l'estime de soi commence par l'acceptation de soi. Je me suis toujours demandé comment faisaient les autres, comment ils se trouvaient moches, lorsqu'ils avaient l'impression d'avoir dit ou fait une énorme bêtise, que tout le monde aurait pu voir ou apprendre. Lorsqu'ils étaient en échec, mis à l'écart, lorsqu'ils avaient déçu la confiance qu'on leur portait, ou qu'ils se sentaient seuls, tout simplement. Comment faisaient-ils pour ne pas se détester, et sourire, et continuer d'agir et d'aller vers autrui? Comment faisaient-ils pour s'aimer malgré leurs défauts? Pour penser qu'on pouvait avoir envie de les inviter, de les revoir, de les aimer, de travailler avec eux. Si je leur ai demandé comment ils faisaient, je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Clémentine, 34 ans. S'accepter pour s'estimer. Comment font les sujets à bonne estime de soi? Sont-ils meilleurs que les autres? Plus intelligents, plus beaux, plus doués? Ont-ils eu une enfance plus heureuse? En réalité, la différence ne se situe pas, ou pas totalement, à ce niveau des qualités objectives. Les personnes à haute estime de soi ont des défauts et des doutes, connaissent des échecs et pas seulement des réussites, ressentent aussi, parfois, ou souvent, pour certains, doutes et sentiments de fragilité. Simplement, ils les acceptent. Les échecs les affectent, mais ils savent qu'ils sont inévitables si l'on a fait le choix de l'action. Les critiques les touchent, surtout si elles sont fondées. Mais ils arrivent à reconnaître alors leurs torts sans besoin excessif de se justifier, ou pire, de dénier. Leurs limites et leur insuffisance les dérangent et les gênent parfois. Mais elles ne les incitent pas pour autant à fuir les situations sociales ou à s'y taire. Simplement, leur fragilité les incite à chercher à apprendre et à progresser, au lieu d'affirmer et de pérorer, de s'inhiber ou de trembler. Bref, la caractéristique la plus forte des sujets à bonne estime de soi, c'est qu'ils sont capables de tolérer et d'accepter leurs imperfections. Car ils ont construit et intégré une bonne image globale d'eux-mêmes et supposent que leurs interlocuteurs seront plus sensibles à cette image globale qu'aux détails qui tuent. En tout cas, leur interlocuteur honnête et bienveillant. Ils savent d'ailleurs ne pas se laisser casser par les esprits malveillants et ont appris qu'il est inutile de fonder sa vie et ses comportements sur eux. Ils suivront leur opinion, leurs intérêts et leurs travers, quoi que nous fassions pour les convaincre. Nous ne prenons jamais de risques face à ceux qui nous apprécient. Mais aucun risque ni aucun triomphe ne sera suffisant face à ceux qui ne nous apprécient pas. Vouloir à toute force remplir ce tonneau des Danaïdes risque au contraire d'user et de ruiner notre estime de soi. S'accepter pour changer. L'acceptation, c'est simplement dire oui. Oui à ce qui existe, puisque cela existe. Le problème, ou ma peur du problème, cela existe bien. Alors autant l'accepter et le reconnaître, au lieu de dire non, il n'y a pas de problème, ou non, je n'ai pas peur, je ne dois pas avoir peur. Reconnaître que, pour le moment, les choses sont comme elles sont, et non comme je voudrais qu'elles soient. Accepter, ce n'est pas seulement tolérer, ce qui revient à refuser en fait, mais en regardant ailleurs. Ce n'est pas non plus se résigner et abandonner l'idée d'agir et de changer. C'est regarder le problème en face et se dire « oui, ce problème existe ». Si les questions d'acceptation intéressent tant les psychothérapeutes après les philosophes, c'est qu'on se change mieux en s'acceptant. Pour se soigner, il faut se reconnaître malade. Si tu n'acceptes pas ta maladie, tu ajoutes l'angoisse à tes symptômes et te voilà malade de l'être. Et pour progresser, il faut se reconnaître et s'accepter imparfait. Pas coupable, pas minable, mais imparfait. Simplement. En fait, non, ce n'est pas simple du tout. C'est plutôt immensément dur. Et surtout à l'opposé total des réflexes qui, depuis tant d'années, nous incitent à feindre d'être plus beaux, plus efficaces, plus intelligents que nous ne sommes. Accepter, une manière d'être au monde. Admettons que nous disions oui à un seul et unique moment, nous aurons ainsi dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à toute existence. Car rien n'est isolé, ni en nous-mêmes, ni dans les choses. Et si, même une seule fois, le bonheur a fait vibrer et résonner notre âme, toutes les éternités étaient nécessaires pour créer les conditions de ce seul événement. Et toute l'éternité a été approuvée, rachetée, justifiée, affirmée dans cet instant unique où nous avons dit « oui », écrivait Nietzsche. Accepter, c'est lâcher prise. On découvre alors que toute une partie des problèmes disparaît d'elle-même. Et ce qui reste paraît plus simple à changer. Mais si nous avons commencé en parlant de l'acceptation de soi, il faut savoir que l'acceptation est en réalité une philosophie de vie générale. Voilà des millénaires que l'acceptation figure au cœur des sagesses orientales, comme de la philosophie antique. Dire oui à ce qui est, puis faire face. Stoïciens et bouddhistes, entre autres, mais sans doute plus clairement et fortement que les autres, l'enseigne depuis longtemps. Pouvez-vous dire « non, ce n'est pas arrivé » ? Impossible, alors acceptez. Ou encore, il ne faut pas s'irriter contre les choses, car elles ne s'en soucient pas. Exercer ses capacités d'acceptation sur le quotidien représente un prélude à l'action sereine pour le changer si nécessaire. Cela dépasse, bien sûr, le champ de l'estime de soi, mais cela le facilite aussi indirectement. Modifier notre regard sur le monde modifiera notre regard sur nous-mêmes. Et accepter le monde nous aidera à nous accepter et nous permettra de progresser. Le concept d'acceptation est difficile à comprendre et à admettre pour les Occidentaux que nous sommes, habitués à nous battre contre la réalité et à avoir le réflexe immédiat de la changer si elle nous heurte. Ou encore à être amer et triste si nous ne pouvons la changer. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le livre « Imparfait, libre et heureux » de Christophe André. Bonne écoute. Nous nous méfions de tout ce qui ressemble à nos yeux à de la passivité. Pourtant, l'acceptation ne renvoie en rien à une soumission, à une démission, à un renoncement à l'action. Quelques exemples. Vous devez prendre un avion et votre voiture est coincée dans les embouteillages. Il y a un gros risque que vous ratiez votre vol. La réaction réflexe qui vous menace est celle du stress. Vous n'acceptez pas, ou très mal, l'idée que vous allez rater votre avion. Et pour cause, tous les ennuis et les contrariétés qui vont en découler s'imposent à votre esprit, provoquent des émotions et des pensées négatives en cascade. La source de tout cela, c'est le fait de rater l'avion. Comment accepter quelque chose d'aussi désagréable ? L'inconvénient de cette attitude de non-acceptation, c'est que ce stress ne résoudra en rien votre problème de retard et risque même d'en ajouter d'autres. Vous allez vous énerver, risquer un accident en roulant trop vite si l'embouteillage se dégage, ou en essayant de vous faufiler s'il persiste. Courir dans l'aéroport, peut-être de vous tromper de halle d'embarquement sous l'effet de la hâte, de vous quereller avec les personnes qui vous paraîtront vous retarder. L'attitude d'acceptation consiste à se dire « Bon, je vais peut-être manquer mon avion. C'est très ennuyeux, mais c'est comme ça. Je ne suis ni le premier, ni le dernier à qui cela arrive. Que puis-je faire d'adapter maintenant ? D'abord, pour essayer de ne pas le rater. Puis, pour essayer, s'il est raté, de ne pas m'infliger une double peine en m'énervant, en me créant de nouvelles complications. Le but de l'acceptation des faits, le retard, n'est pas de renoncer à l'action, mais au contraire d'agir au mieux. Vous discutez politique avec un ami. Ses opinions sont idiotes, nulles et stupides. Enfin, c'est en tout cas ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est là que commence votre problème. Les propos de votre ami vous heurtent et vous agacent, parce qu'ils sont opposés aux vôtres. La non-acceptation consiste à vous dire « Il a tort, c'est stupide de penser ça, comment peut-on être aussi aveugle aux réalités ?» Il est probable que cette non-acceptation de ce qu'il pense et du fait qu'il a le droit de penser ainsi va à la fois aggraver votre état émotionnel, réduire votre intelligence du dialogue et enfin détériorer, au moins sur le moment, la qualité de la relation avec votre ami. C'est beaucoup d'inconvénients. L'attitude d'acceptation consiste à essayer d'accepter ce qu'il pense, même si vous n'êtes pas d'accord. Le fait que vous ne soyez pas d'accord et que, peut-être, vous ayez raison, n'empêche pas cette réalité d'exister. Il ne pense pas comme vous le voudriez. Alors, acceptez ça. Et au lieu de lui dénier le droit à penser ainsi, commencez à vous poser des questions plus intéressantes. Comme, pourquoi pense-t-il cela ? Comment lui faire mieux écouter ma position ? L'acceptation ne conclut ni ne ferme le dialogue, elle l'ouvre au contraire. Dans les deux sens. Je me souviens d'avoir été moi-même un jour engagée dans une discussion avec un ami à propos de querelles qui agitaient le monde de la psychothérapie. Il y avait eu des affrontements verbaux très violents entre les thérapeutes comportementalistes et certains psychanalystes lacaniens, peu nombreux mais très énervés. De mon point de vue, moi qui suis comportementaliste, nos adversaires avaient l'essentiel des torts. Ils avaient initié le conflit, avaient utilisé l'invective et l'intimidation malsaine, etc. Mais cet ami ne voyait pas les choses ainsi et renvoyait dos à dos les comportementalistes et les lacaniens. « Vous avez des torts partagés », disait-il. J'avais du mal à accepter sa position car il me semblait que les torts n'étaient pas du tout partagés. Mais tant que j'étais dans cette non-acceptation, la discussion patinait et je sentais que je commençais à m'énerver. J'ai alors changé de position en me disant « C'est bon, accepte qu'il pense ce qu'il pense, c'est un fait et c'est son droit. » Je me suis alors sentie beaucoup plus détendue et j'ai pu discuter de façon plus constructive et précise. Poser des questions comme « Explique-moi, pourquoi dis-tu cela ? Quels sont les éléments sur lesquels tu te fondes ? Raconte-moi, ça m'intéresse. » Et ça m'intéressait vraiment. Puisque j'avais accepté son opinion, je pouvais maintenant m'intéresser à ses fondements. Alors qu'en ne l'acceptant pas, la seule chose qui m'intéressait, c'était qu'il s'en débarrasse. Accepter, c'est ici tenter de comprendre. Ce qui ne veut pas dire, en matière de débat d'idées, donner raison à l'autre. Peut-on tout accepter ? D'accord pour s'accepter, soi et ses défauts, d'accord pour accepter les défauts des autres, les gros et petits tracas de la vie dans ses aspects quotidiens. Mais le racisme, l'injustice, la misère, il faudrait accepter cela ? L'acceptation ne consiste pas forcément à tolérer ou à approuver. Le mal, par exemple. Il est hors de question de le cautionner. Mais la question est aussi dans quel état d'esprit le combattre. Quelle attitude sera la plus efficace ? Le Dalai Lama rappelle à ce propos. Si on te frappe avec un bâton, tu en veux à celui qui tient le bâton, pas au bâton lui-même. Mais celui qui te frappe est tenu par la haine. On changera mieux le monde en acceptant auparavant qu'il soit ce qu'il est. On évitera ainsi les réflexes animaux de vengeance. Accepter qu'il existe des assassins et des voleurs permet de rendre la justice et non d'appliquer la loi du talion. ou de réaction brutale. Accepter par exemple que les enfants soient des enfants évite la tentation de la colère et de la violence à leur égard, mais ne fait pas renoncer à les éduquer et parfois les punir. Quoi que nous pensions de la violence ou de l'injustice, elles existent. Que nous nous énervions ou que nous soyons résignés, elles existent. Cela, nous ne pouvons que l'accepter. Ce n'est en rien un prétexte pour ne pas agir, mais c'est une invitation, une préparation à le faire plus lucidement. En évitant, par exemple, d'en vouloir aux personnes violentes, alors que ce sont les comportements violents le problème. Accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter ce qui est n'est qu'une étape préalable avant de le changer. Le but de l'acceptation n'est pas de se substituer à l'action, mais d'éviter la gesticulation. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Et puis on rentre tranquillement chez soi. Accepter, c'est choisir de se donner plus de force et de lucidité pour changer. C'est l'antichambre de l'action efficace, bien plus que la simple indignation émotionnelle. Lorsque j'explique les principes d'acceptation de soi à mes patients, ils sont d'abord un peu inquiets. Ils pensaient être venus voir un psychiatre et voilà que ce dernier leur parle de choses qui ressemblent à de la philosophie ou à de la religion. Puis ils sont perplexes. M'accepter ? Mais je ne fais que ça depuis mon enfance. Accepter, ne rien dire, me soumettre, la fermer, la boucler, avaler des couleuvres, des boas. Accepter justement, j'étais venu ici pour ne plus accepter ce destin. Et voilà que vous me demandez d'accepter. C'est très difficile, la notion d'acceptation, en matière d'estime de soi. Parce qu'on aborde des phénomènes très intimes et douloureux, liés à l'image de soi. Qui a envie de s'accepter inférieur ? On a beau se sentir souvent inférieur, en réalité, on n'a pas envie de l'accepter. Et c'est tant mieux, d'une certaine façon, puisqu'on n'est pas inférieur. Enfin, pas autant qu'on le craint, et dans autant de domaines qu'on le redoute. Car on est toujours inférieur, imparfait en quelque chose. Et alors ? Prenons un exemple. Dans une soirée, la plupart des convives connaissent très bien un sujet et en parlent avec animation. Vous n'y connaissez rien. Si vous l'acceptez, vous allez passer un moment intéressant, apprendre des choses, oser poser des questions. Ce sera facile si vous acceptez de ne pas savoir et si vous admettez que cela puisse se voir. C'est exactement ce que permet une bonne estime de soi. S'accepter limité à certains moments et dans certains domaines. Acceptation flexible. Vous pourrez même en jouer un peu parfois. C'est assez amusant, vous verrez. Et toujours confortable, finalement. Si vous n'acceptez pas votre ignorance, vous allez passer un mauvais moment. Vous allez faire semblant de savoir en hochant doctement la tête, tremblant à l'idée qu'on vous demande votre avis. Vous serez agacé contre ces convives qui étalent leur savoir. Et vous allez rentrer chez vous, épuisé ou irrité. C'est le réflexe d'une mauvaise estime de soi. Ne pas accepter ses limites et ne pas voir qu'elles ne nous rendent en rien moins estimables aux yeux des autres. Non-acceptation de soi rigide. Moins vous acceptez vos limites, plus vous en êtes prisonnier. Nous verrons bientôt comment l'acceptation de soi, nuancée et flexible, est très différente en fait de ce mélange rigide et stéréotypé de résignation et de crispation qui caractérise la non-acceptation des mauvaises estimes de soi. À travers la première partie de ce livre, nous sommes plongés dans ce qui définit une bonne d'une mauvaise estime de soi, dans l'apprentissage théorique du sujet. Dans la suite du livre, Christophe André nous apprend comment atteindre cet idéal d'estime de soi saine, de manière plus pratique. Le livre « Imparfait, libre et heureux » de Christophe André est disponible aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez aussi toujours retrouver les deux émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr. Après vous avoir fait découvrir un auteur de thriller portugais avec Immortel de J.R. Dos Santos et l'auteur français Franck Tilliez avec Rêver, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la dernière découverte de type thriller avant un long moment, cette fois d'une autrice coréenne. Mais en attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end !